Ce bouquin, donc, qui se présente d'abord comme une bordée d'injures que moi je trouve jouissive, mais qui peut sembler pesante aussi, c'est un bouquin de pensée politique. C'est un des trucs que je voudrais qu'on explore aujourd'hui. Surtout qu'on est à la veille des élections, machin. Et du coup, je trouvais ça formidable. Il y a toujours des hasards de calendrier qui sont intéressants. La dernière fois, il fallait que je vous parle de l'enfance et je venais d'être père. Et là, je vais devoir vous parler de philosophie politique et demain, il y a des élections. Voilà, vive le hasard. Est-ce que vous avez saisi d'abord dans le Olympia qu'il y a un moment où elle parle de Velázquez et du tableau, en fait? Parce que c'est un peu crypté. Velasco. Elle l'appelle Velasco. C'est page 29-30. Le Diego Velasco. Alors, elle adore ça, Céline Ménard. Elle transforme les noms en fonction des langues. Donc, Diego Velasco, c'est l'italien pour Diego Velázquez, en fait. Dans Bastard Battle, qui est un livre génial, publié juste avant ça, hyper jouissif. Bastard Battle, ça se passe en Bourgogne, en haut de la Bourgogne. Et d'un coup, il y a des personnages asiatiques qui déboulent, on comprend pas trop. Bon, c'est Céline Ménard, quoi. Elle catapulte les époques, les géographies, elle s'amuse. Et il y en a un qui dit, visiblement, on comprend qu'il est chinois, qu'il est asiatique ou quoi. Et elle dit, sous la plume de son narrateur, qui est une espèce de notaire du 15e siècle, quoi. Cet asiatique vénère un certain Bouddha le Replay. Et en fait, Bouddha le Replay, c'est Bouddha, quoi. Mais c'est Bouddha à la sauce Rabelais, quoi. Vous voyez, Bouddha le Replay. Donc là, elle fait la même chose avec Velázquez. Diego Velasco. Le Diego Velasco, évidemment, elle le dégomme parce qu'elle dégomme tout le monde. Les dépenses pour un pourri diplomate aux mains de Garce. Voilà, ça c'est Diego Velasco. Et je me lance dans Olympia. L'un des points communs de ce texte avec celui de la dernière fois, c'est qu'il s'agit d'un texte hybride. On a deux parties, très clairement, très différentes au niveau du genre, au niveau du type de texte. On a un monologue, un petit roman sous forme de monologue. On va voir que c'est pas incompatible. Pour moi, c'est bien un petit roman sous cette forme monologuée, et puis on a une biographie succincte. C'est deux types de textes qui n'ont rien à voir, au niveau générique, hein, au niveau du type de texte, quoi, au niveau de la manière dont ces textes sont faits. Donc bien sûr, c'est le personnage central qui fait unité entre ces deux parties, Olympia Maedalchini, conseillère du pape Innocent X. C'est vraiment drôle, Innocent X, c'est très drôle. La croix... Donc le pape Innocent X, lui, il est assez connu, hein. Olympia l'est beaucoup moins. C'est quelqu'un qui a hanté les imaginaires dans le passé, mais plus tellement pour nous aujourd'hui. Innocent X, il est arrivé jusqu'à nous par les portraits, en fait, par Velázquez et surtout par Bacon, qui a rappelé Velázquez. Bacon, c'est fou comme il parle aux gens de notre époque, quoi. Et quand vous regardez la peinture de Bacon, vous comprenez le style de Céline Ménard. Céline Ménard, c'est quelqu'un qui écrit comme si elle écrivait après Bacon, quoi. Après cette violence-là, après cette prise en compte de cette violence-là. Donc cette Olympia Maedalchini, c'était la conseillère d'Innocent X, et on raconte qu'elle le conseillait tellement qu'elle l'éclipsa, qu'elle a éclipsé le souverain pontife, jusqu'à s'ériger dans la bouche de ses ennemis en véritable papesse. Elle a aidé beaucoup, beaucoup les protestants à consolider leur autorité, quoi, puisque les protestants disaient « Rome, c'est Babylone, nous, on ne veut pas de ce christianisme-là, on en propose un autre ». C'est en grande partie grâce à Olympia. Ils ont fait des textes d'une violence. D'ailleurs, elle en cite un, Céline Ménard, dans la deuxième partie. C'est le plus beau passage de la deuxième partie. C'est la citation du texte qui critique la papesse Olympia. Enfin, je veux dire, en termes de violence, c'est rien ce qu'elle a écrit, Céline Ménard. Souvenez-vous, je sais pas, moi, Calvin, quoi, un des fondateurs d'une nouvelle piété en Europe, qui a écrit un truc où c'est « Dieu vomit les tièdes ». Dieu vomit les tièdes. Alors après, Céline Ménard, vous voyez... Donc ses ennemis l'appelaient papesse. Il faut qu'on s'arrête quand même deux secondes sur ce mot, papesse. Papesse, c'est une impossibilité. C'est un mot antithétique. Papesse. Déjà, curé, vous pouvez pas le mettre au féminin. Alors papesse, imaginez, quoi. Quand Céline Ménard, elle écrit, elle intitule sa deuxième partie Olympia Maedalchini, papesse, elle reprend le terme convenu, mais ça veut dire, j'ai choisi un personnage au destin impossible. Même le mot pour la désigner est impossible. Au sein de la très masculine Église catholique, choisir de devenir papesse, c'était s'inscrire dans une impossibilité. Et évidemment, pour Céline Ménard, ça l'intéresse beaucoup, une papesse, du point de vue du rapport entre le féminin et le masculin. Alors, sur ces deux parties, j'avance. La seconde, elle nous semble d'un intérêt littéraire presque négligeable par rapport à la décharge verbale hallucinante que constitue la première partie. Donc, je vous rappelle, hein, Olympia, correcteur orthographique, impoli. Et à la lecture du livre, impoli, c'est presque un euphémisme, en fait. Mais outre le fait que la biographie, elle permet quand même de saisir un certain nombre d'allusions à des personnages et à des faits dans le monologue, B éclaire A, elle aide surtout à percevoir le caractère romanesque de la première partie, le fait que c'est un roman. et pas du théâtre, par exemple, et pas une simple rêverie à partir d'un personnage historique. Pourquoi ? Parce que on voit bien, en comparant le personnage historique tel qu'il est décrit dans la deuxième partie, à quel point la Olympia du monologue est fantaisiste, un personnage de fantaisie. En fait, ce qui intéresse, je crois, Céline Minard avec Olympia, c'est que c'est l'occasion pour elle, c'est du matériau, le personnage historique, c'est du matériau pour dresser le personnage d'une sorcière. C'est ça qui l'intéresse, en fait. Céline Minard, elle s'intéresse aux sorcières, à travers ses différents bouquins, c'est sensible. Il y a une sorcière dans son dernier bouquin, Failli être flingué. Il y a un bouquin entier qu'elle a consacré à des sorcières, qui s'appelle Les Halles, A-L-E-S. Et donc, elle a une approche de l'histoire qui est celle de Schwab, de Marcel Schwab, qu'elle annonce dans son exergue de départ, la petite citation de départ. La science historique nous laisse dans l'incertitude sur les individus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, moi, Céline Minard, je me suis cultivé sur Olympia, sur Rome, pendant mon séjour à la Villa Médicis, j'ai parcouru la ville, etc., etc. Je me suis pétri d'histoire, mais, je vous fais une fiction. Et je suis auctor. Il est beaucoup question d'autorité dans Olympia. Je finirai là-dessus tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette autorité de l'auctor ? Et justement, par rapport à l'histoire, juste avant que sorte Olympia, en 2009, l'historienne très sérieuse, qui n'écrit pas des bordées d'insultes, Arlette Farge, a publié un livre singulier, un essai, sur tentative de se représenter les voix du passé. C'est un bouquin qui s'appelait « Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle ». Vous trouvez ça chez Bayard, donc 2009. « Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle ». C'est un pari d'historien fou, parce que autant les historiens peuvent s'appuyer sur de l'écrit, c'est leur matériau fétiche, vraiment fétiche. Autant la voix est par définition insaisissable, à partir du moment où la personne meurt, et même à partir du moment où les époques passent. Nous, déjà, quand on entend les gens de la radio, enfin, les actualités d'avant-guerre et tout ça, on a l'impression que c'est le Moyen-Âge, quoi. Une voix très vieille. Donc, il y a cette préoccupation chez Arlette Farge d'essayer de recomposer une voix, recomposer des voix, pouvoir se représenter des voix qu'on ne peut pas entendre. C'est celle du passé. Et il me semble que Céline Minard, qui n'est pas historienne, a une démarche proche dans Olympia. Elle essaye de nous faire entendre une voix du passé. Elle nous fait aussi beaucoup entendre sa voix, bien sûr. Mais à travers le passé, elle passe par les fantômes pour nous montrer son existence à elle. Il y a un truc comme ça. Il y a beaucoup de vocabulaire archaïque dans Olympia. Il y a beaucoup de vocabulaire qu'on n'emploierait plus aujourd'hui. Il y a du vocabulaire hyper contemporain. Mais elle joue avec des anachronismes. On verra dans le passage que je vous ai gardé qu'il y a une allusion au bidet. Évidemment, le bidet dans la bouche de Olympia, c'est pas possible. Il y a une très belle histoire du bidet qui a été faite par l'émission Carambolage sur Arte, qui est disponible en ligne. En 5 minutes, vous avez toute la généalogie du bidet, c'est passionnant. Et pourquoi il n'y a plus de bidet aujourd'hui, à part à l'état de reste, quoi. Alors Céline Minard, les voix du passé, ça l'intéresse. C'est pas la première fois avec Olympia. Déjà, le livre précédent, Bastard Battle, qui est une blague sur le vocabulaire, Bastard étant un vieux mot et battle un mot plus récent, a collé bastard et battle aujourd'hui dans le français. C'est à la fois faire acte d'archaïsme et de modernité. Bastard Battle, c'était écrit dans la langue de François Villon. C'est une imitation de la langue du XVe siècle, mais à tomber par terre. C'est à s'y méprendre. Elle s'est complètement imprégnée de la langue de François Villon, et elle nous donne à lire une histoire dans cette langue-là qu'on comprend, avec un peu de temps d'adaptation, mais qui est rapide. Donc elle cherche déjà à faire entendre une voix du passé, celle du XVe. Ici, c'est plutôt donc la langue de Rabelais qu'on entend. Moi, j'ai beaucoup bossé sur la Renaissance à un moment, et très frappé en lisant Olympia, de retrouver non seulement du lexique, mais des tournures, du rythme de la langue de Rabelais, de la langue du XVIe siècle. Et puis l'humour, bien sûr, parce que c'est un livre drôle. On verra que Rabelais, c'est aussi un modèle pour Céline Minard, à mon sens, dans la réflexion sur le pouvoir. Parce que Rabelais, c'est pareil, c'est pas que de la gaudriole, il faut pas croire. Gargantua, c'est un traité sur le bon souverain. C'est une époque où on réfléchit énormément à la question de la souveraineté. Parce que d'un coup, c'est plus Dieu qui commande, en fait. Et on peut plus se recommander que de Dieu, c'est les hommes qui doivent eux-mêmes se déterminer. Et donc, il faut trouver des nouvelles bases pour ça. Au moment où le pouvoir devient absolu, où il se réclame le plus de Dieu, en même temps, il faut qu'il trouve des justifications philosophiques. Il faut qu'il ait un sens que les hommes lui donnent, et pas seulement Dieu. Donc Rabelais est complètement dans cette période, et il propose une figure du bon souverain. Il réfléchit sur ce que c'est qu'un bon souverain dans Gargantua. Donc c'est une influence qui est encore sensible dans Olympia. À travers cette langue très rabelaisienne, à travers ces thèmes rabelaisiens aussi, on retrouve surtout la puissance stupéfiante de l'écriture de Céline Minard, qui est capable de s'approprier la langue de Villon, la langue de Rabelais, la langue du 19e, une langue très actuelle aussi, toutes les époques du français, pour faire entendre à chaque fois une même force du verbe et une même force de l'invention. Je crois qu'on comprend bien Céline Minard si on se dit, voilà, elle s'intéresse à cette charge d'insultes, pas tellement, pas seulement pour choquer, pas seulement pour la colère, mais simplement pour l'énergie. La colère, c'est une des manières de véhiculer de l'énergie. Et Céline Minard, ça l'intéresse, parce que pour elle, la littérature, c'est une question d'énergie. C'était déjà le cas l'an dernier dans Le Dernier Monde, qu'on a étudié ensemble pour certains, qui est une espèce de réservoir d'énergie verbale, quoi. Et c'est encore vrai pour son dernier roman, qui est sorti en 2013, Faillir être flingué. D'ailleurs, les jurys ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils lui ont attribué le prix du style, ce qui est quand même pas tout à fait rien pour quelqu'un qui balance des insultes pendant 60 pages. D'ailleurs, le prix du style, c'est un prix qui est très très renommé, qui donne beaucoup d'autorité à votre prose. Par contre, si vous comptez vous enrichir avec, passez votre chemin, parce qu'en fait, il donne 1 euro par page. C'est la manière dont le prix est décerné, quoi. Donc heureusement, elle l'a pas eu pour celui-là, parce qu'elle n'aurait vraiment pas eu grand-chose. Elle l'a eu pour Faillir être flingué, qui est un peu plus gros. Céline Minard, c'est pas un ponte, comme Quignard ou Michon, mais je dirais, c'est pas encore un ponte. Voilà, ça va venir. C'est vraiment une des personnes qui maîtrise le plus la littérature française aujourd'hui. Elle connaît tout, elle comprend tout, elle sait tout faire. Donc, surveillez-la. Donc ce petit texte, par son énergie, mais aussi par son ambition théorique, ça, il faut vraiment, vraiment qu'on l'empoigne ensemble, qu'on prenne le temps de l'écouter, révèle indéniablement un grand auteur. Et je voudrais vous le dire en parlant de ce texte de deux façons. Une façon un peu descriptive, d'abord. Je voudrais vous dire que pour moi, Olympia, c'est un monologue furieux. Et là, les deux mots comptent. Un monologue furieux. Et puis ensuite, donc, je voudrais qu'on voit les rapports entre politique et sorcellerie. J'ai appelé ça « De la politique à la sorcellerie et retour », parce que ça ne va pas que dans un sens. Alors, voyons, monologue. Monologue furieux. Pourquoi est-ce que je choisis le mot monologue? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce que c'est que cette voix qui jaillit, là? Il n'y a aucune marque. On est paumé. On est carrément paumé, quoi. Quoi, ce truc au début, là, qui nous saute à la figure, mais de qui elle se prend, elle? Je lui brûlerai les doigts de pied. Donc ça me rappelle On the Road, vous vous souvenez, l'édition qu'on avait étudiée, On the Road. Ça a démarré. Kerouac, il écrit deux fois le mot démarré dans le manuscrit. Ça a démarré. Je brûlerai les doigts de pied. Ça, c'est sa version à elle. Donc d'où ça sort, cette voix? Est-ce que c'est de la pensée, d'abord? Est-ce que c'est une voix à voix haute qui est censée nous arriver? Bon, en lisant le monologue, mais aussi la biographie, on comprend petit à petit qu'Olympia parle depuis le carrosse qui l'emporte loin de Rome. La situation, c'est ça. Elle a ses chevaux noirs, là. Elle est en train de, allez, quitter Rome au galop. Alors, elle est bannie, ouais, mais elle essaie de résister contre ça. Elle dit « Je ne fuis pas, je devance. » Je ne fuis pas, je devance. Donc, on est en 1655. Innocent X, qui la protégeait, en fait, vient de mourir. Elle se retrouve sans protection. Le successeur d'Innocent X l'a banni. Donc il y a deux choses, il y a le bannissement politique pour déterminer sa situation, et il y a les chevaux au galop, le carrosse. Elle est dans un carrosse, elle galope. Là les deux choses m'intéressent, le carrosse et le galop ça m'intéresse parce que le rythme du texte c'est ça. Cette espèce de déferlante, c'est la cavalcade des chevaux. Elle écrit alors qu'elle est secouée par les chevaux. La prosodie, elle a le rythme d'une cavalcade. Et ça explique aussi, donc, je disais, elle est bannie, et en même temps, elle le nie. Est-ce qu'elle fuit ou est-ce qu'elle fuit pas? Elle dit, elle répète, je ne fuis pas, je devance, je cours. Ça, c'est l'argument principal qui court tout le texte, qui est à la fois l'objet de sa démonstration, comme si elle nous démontrait ça, je ne fuis pas, et en même temps de la dénégation. Elle nie l'évidence, c'est-à-dire qu'en effet, elle est bannie. Il y a beaucoup de mauvaise foi qui vient nourrir la puissance de feu de ce texte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la pensée? C'est de la voix haute? Ben, ni l'une ni l'autre. Il n'y a pas d'ambition réaliste dans Olympia. Le texte ne se présente pas comme une espèce d'enregistrement micro-tendu d'une parole qui aurait vraiment été prononcée. C'est juste une situation littéraire privilégiée. Céline Minard, elle a dû apprendre cette histoire de cavalcade, et elle s'est dit, mais c'est génial, c'est à ce moment-là qu'il faut que je fasse mon texte. Mon texte, il faut qu'il s'ancre dans ce moment-là. Mais c'est bien un texte. C'est un artifice. C'est une forme littéraire parfaitement adaptée à cette situation qu'est celle d'Olympia, le monologue. Donc monologue, c'est un terme, moi, quand j'ai fait mes études de lettres, tout ça, bah, théâtre. On vous dit, le monologue, bah, c'est une forme du théâtre. Bon, on verra qu'aujourd'hui, le monologue peut être romanesque. Mais cet ancrage théâtral, il est intéressant. En fait, j'ai appris qu'il a joué dans la création du texte, parce que Céline Minard comptait, en fait, collaborer avec la comédienne Nathalie Richard, qui est une comédienne et actrice, d'ailleurs, connue pour, au théâtre, ses collaborations avec Jean-Pierre Vincent, Jean-Baptiste Sastre, etc. Au cinéma, avec Rivette, Assayas, Ozon, que des amateurs, quoi. Donc, elle a la machine théâtrale en tête, au moment où elle écrit ça. Elle se dit, j'écris pour une comédienne. En fait, ça n'a pas marché. C'est tombé à l'eau. Il y a eu de nombreuses lectures, enfin des lectures, je ne sais pas si elles étaient nombreuses, mais il y a eu des lectures faites par Nathalie Richard d'Olympia en librairie, dans les lieux où Céline Minard allait présenter son bouquin. Il n'y a pas eu vraiment de mise en scène. Mais le matériau, il est là. Le matériau d'une mise en scène est là. Ce qui explique aussi la durée du texte. Hein. Plusieurs ont dit, mais quel est l'intérêt de faire ça sur 60 pages? Ben oui, mais si vous voulez faire un texte de théâtre, ça n'en fait pas 10. Donc le pari... Parce que c'est un pari, c'est de faire un texte. Alors, c'est pas des insultes hein, pendant 60 pages, on va voir, il y a différents types de paroles, mais un texte d'imprécation, qui tienne la longueur. Donc voilà, le projet théâtral, il explique, pour partie, le choix du monologue. Mais, je crois surtout qu'il correspond hyper bien au personnage, au moment où Céline Minard l'attrape. Il n'y a pas de forme plus juste que de monologue pour la situation dans laquelle est Olympia. Ce qui intéresse Céline Minard, à mon sens, c'est le moment du bannissement, parce qu'il déclenche la furie. Elle est furieuse d'être bannie. Donc, elle va parler furieusement. Et Céline Minard adore ça, ça va être un moment privilégié de littérature. La parole furieuse, elle devient facilement littéraire. C'est un moment où le langage s'enfle, où il s'épanche. Vous savez, on est très fragiles, nous, les auteurs. Il faut qu'on trouve des situations où, avec ce matériau faiblard qu'est le langage, on va faire tenir un truc. C'est hyper difficile. On n'a que le langage. Au théâtre, il y a des corps. Au cinéma, il y a la lumière. Avec la musique, les chansonniers, ils chantent des trucs. La plupart du temps, c'est nul ce qu'ils chantent, le contenu, quoi. Mais c'est émouvant. Il y a la musique, il y a aussi les lumières. Non, c'est liminaire, il faut qu'elle trouve. Elle est comme moi, elle est comme nous. Il faut qu'elle trouve une situation où ça marche qu'avec du langage. C'est hyper difficile. La furie d'Olympia, elle est d'autant plus forte qu'elle est solitaire. Et c'est une solitude de l'abandon. Olympia, elle a été au fait du pouvoir. Elle a été, c'est la reine soleil. Elle a été sous les feux de la rampe. Et là, d'un coup, elle n'est plus rien. Elle n'a plus que le langage. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est fille de force et de victoire. Elle met le langage à feu. Il ne lui reste plus que ça. Elle le fait exploser. Elle fait un feu d'artifice. Et donc, pour faire entendre cette solitude, pour faire entendre cette furie, pour faire entendre cette langue, il n'y avait rien d'autre de disponible qu'un mono-logos. Une parole solitaire. Mono-logos. C'est hyper bien vu de sa part d'avoir trouvé le monologue, d'avoir pensé au monologue. Hyper bien vu. Elle aurait fait un dialogue entre Olympia et le successeur. Ça aurait été intéressant, ça aurait eu de la force, mais là, c'est parfait, quoi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Olympia, c'est du théâtre? Pas seulement. D'abord, le texte en lui-même, il ne se présente pas comme un texte de théâtre. Il n'y a aucune marque typique du texte de théâtre. Par exemple, le nom, puis la réplique. Là, le nom, il est juste présent comme titre. C'est peut-être ça, éventuellement. C'est peut-être là que Céline Minard déplace, au niveau du titre, l'attribution de la parole qu'il y a d'habitude au théâtre, dans les textes, tac, Olympia, je, lui, blablabla, blablabla. Elle ne donne pas cette marque théâtrale à son texte. Il n'y a pas de didascalie non plus, ces marques extérieures au dialogue de théâtre, qui donnent des indications scéniques. Il fait trois pas, elle ramasse une pomme, des trucs en italique. Il n'y a pas de didascalie. La quatrième de couverture, elle dit, très timidement, ce livre, portrait en diptyque de la grande prostituée, Et au tout début, on nous dit, ça c'est la formule de convenance, ouvrage publié sous la direction de Cécile Guilbert. Donc c'est neutre. Moi je pense que, je dirais, mon analyse, c'est que Olympia, c'est un roman à une voix qui est disponible pour la scène, qui est immédiatement disponible pour la scène. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait un roman et pas un monologue de théâtre à ce moment-là ? Il se trouve que le monologue, ça intéresse beaucoup les romanciers aujourd'hui qui développent un travail sur l'oralité et qui s'intéressent à la scène. Très bêtement, d'ailleurs, pour des raisons techniques, d'abord. Si vous voulez adapter un roman avec plein de personnages, avec plein de passages de narration, etc., pour la scène, il faut faire tout un travail de redécoupage, d'adaptation scénique, ce qu'on appelle la dramaturgie. La dramaturgie, c'est ça. C'est le fait de prendre un texte qui n'est pas fait pour le théâtre et de le rendre disponible pour le théâtre. Ça, c'est difficile, c'est long. Si vous faites un roman à une voix, il n'y a presque rien à faire. Éventuellement des coupes. Mais c'est déjà disponible. Ça peut tout de suite servir pour la scène. Et en même temps, vous ne perdez pas l'énorme force du roman. Même si c'est un petit roman. Et peut-être même surtout si c'est un petit roman. Il y a une force d'imagination, quoi, dans Olympia, qui est strictement romanesque. Qui est beaucoup plus rare dans le texte de théâtre. Donc ce roman scénique, ce roman, ce monologue romanesque disponible pour la scène, ça intéresse les romanciers aujourd'hui. C'est une forme qui intéresse les romanciers. Et on en verra un exemple avec Fairy Queen la prochaine fois. Au niveau générique, Fairy Queen et Olympia sont extrêmement proches. C'est des romans à une voix, prêts pour la scène. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment avec mon troisième roman, Singulière. C'est un monologue romanesque, mais qui est disponible pour de la scène, pour de la performance, pour de la musique ou du théâtre. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous faire partager ce bouquin, parce que pour moi, et Fairy Queen aussi, parce que pour moi, c'est des pierres angulaires, quoi. Je vous dis, on a énormément besoin d'aide quand on écrit. Les autres textes vous aident beaucoup. C'est cette aide-là, moi, dont je voulais vous faire part aussi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi furieux pour qualifier ce monologue ? Monologue furieux. Ben, la fureur, c'est-à-dire la rencontre de la colère et de la folie, on peut dire ça comme ça, la fureur, c'est le moment où la colère devient folle, c'est une humeur qui inspire les littéraires depuis le départ. La naissance de la littérature, l'Iliade, en Europe, hein. La naissance de la littérature, premier vers de l'Iliade, chante, ô déesse, le courroux du Péléide Achille. Donc voilà notre bonhomme Achille, c'est sur lui que s'ouvre l'Iliade et il est en colère. Voilà, baptême de la littérature européenne, paf, la colère. On parlera d'une autre colère tout à l'heure, encore plus ancienne, celle de Dieu, Dies Irae. Mais ce sera à propos de la fin d'Olympia. Achille, donc, c'est le premier grand colérique. Ajax le suit de peu dans l'Iliade. Lui aussi, il va être très très en colère, pour des raisons d'honneur. Et puis, beaucoup plus tard, il y a un autre grand furieux qui a beaucoup marqué la littérature européenne, et notamment italienne, c'est Roland. Orlando, comme disent les Italiens. Orlando dit furioso. Orlando furioso. Roland furieux. Alors, il n'est pas furieux pour les mêmes raisons. Lui, c'est parce qu'il est amoureux. Alors que Achille et Ajax, c'est des guerriers qui sont vexés. Il ne faut pas vexer les guerriers. Faites vraiment attention aux guerriers. Dans tous les cas, là, avant Céline Minard, il y en a un qui est amoureux, il y a les autres qui sont vexés, mais vous vous rendrez compte que c'est des hommes, à chaque fois. C'est des hommes et c'est des guerriers. Qu'est-ce qu'elle fait, Céline Minard ? Elle met une femme et une femme politique. Voilà. Très singulier. C'est un geste littéraire fort, ça. Dans la lignée des furieux, bah, d'un coup, il y a une furieuse. C'est pas si fréquent. Et c'est une furieuse, c'est pas une guerrière. C'est une politique. C'est pas la première furieuse, Olympia. Mais à mon sens, je pense qu'elle reprend vraiment des attributs de personnages masculins dans Olympia et qu'elle les applique à une femme. Et ça l'intéresse. Il y a un point de jonction, par exemple, chez les personnages de Racine qui est très étroit entre la fureur et la pamoison. C'est des femmes qui sont toujours proches de déconnecter quand elles sont dans la fureur. Là, en fait, plus elle est furieuse et plus elle est forte. Bon, furieux, moi, le mot furieux, je l'attribue dans l'histoire de la littérature à un personnage masculin, quoi. C'est vraiment Roland. L'ancêtre de Roland, les ancêtres de Roland, c'est Achille et Ajax. Mais clairement, l'adjectif furieux, il est accolé à des personnages masculins. Et là, d'un coup, bah, y a une furieuse. C'est un geste fort. C'est ça l'idée. Après, des modèles de furie, oui, il y en a. Des modèles de femmes en colère, bien sûr, il y en a plein. J'en évoquerai certains, d'ailleurs. Bon, je continue sur mon histoire de fureur. J'en termine. Pourquoi est-ce que la fureur est intéressante pour Céline Minard ? Alors, peut-être que c'est une femme en colère, ça c'est une chose, mais essayons de nous intéresser à des questions littéraires. Je vois au moins trois raisons. Sur le plan de l'intrigue, quand vous êtes en train de construire une intrigue, quelqu'un qui est en colère, c'est génial. Votre intrigue, elle est faite. La colère, c'est un événement, c'est un désordre. Donc un début d'histoire. Vous avez quelqu'un qui est en colère? Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va aller tuer quelqu'un ou alors il va se calmer? Ben, vous avez un début de roman, en fait. Ça, c'est une première chose. Je vous dis ça hein, sur le plan technique de quelqu'un qui se met à faire un texte, quoi. Sur le plan des images, la fureur, ça pousse à des actes frappants. Ajax, dont j'ai pas beaucoup parlé pour l'instant, et qui n'est pas juste un produit pour nettoyer la vaisselle, qu'est-ce qu'il fait sous le coup de la fureur? Il tue un troupeau entier, en pensant que c'est les Grecs. En fait, il en a contre son camp. Il imagine qu'il tue les chefs grecs. Heureusement, Athéna l'a ensorcelé. Donc, il va se venger sur les moutons. Au passage, on comprend qu'on est dans une société d'agro-pasteurs. On est chez les Grecs. Ça, c'est un truc impossible en société chasseurs-cueilleurs, par exemple, comme histoire. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ajax? Il fait une métaphore. Au moment où il bute le troupeau, pensant tuer les chefs grecs, il fait une métaphore. Pour Homère, c'est du pain béni, la fureur d'Ajax. Il fait une image littéraire. Il fait le boulot des littéraires. Les troupeaux, ça marque beaucoup. Il y a un troupeau génial dans la Bible, le démon Légion, qui demande à Jésus de l'envoyer dans le troupeau de porcs. Et puis, une fois que le démon Légion est dans les porcs courent, et ils tombent dans la mer. Il y a une falaise, ils tombent dans la mer. Il faut imaginer un troupeau de porcs ensorcelés qui tombe dans la mer. Bon, qu'est-ce qui intéresse surtout Céline Minard avec la fureur? C'est la parole, bien sûr, bien sûr. Quand elle prend une forme verbale, la fureur transforme le langage. C'est-à-dire ce pauvre matériau symbolique des littéraires. C'est ça notre pauvre matériau, c'est des mots. Et bien, quand ils sont en fureur, le langage devient un acte. Et même un acte surpuissant. Un suracte. La parole devient efficace. C'est pas juste blablabla. Et en fait, Olympia est la déclinaison de cette parole efficace, de cet acte verbal en trois grands types. C'est construit comme ça, Olympia. C'est pas juste de l'insulte. Il y a trois grands types de paroles efficaces, rendues efficaces par la fureur. Il y a la malédiction, qui est le début du texte. Je vous maudis. Je vous maudis tous. Je maudis Rome. Il y a la malédiction, il y a la plaidoirie, elle se défend. Et il y a, à la fin, un moment vraiment de haute littérature, l'invocation. Elle en appelle aux forces aquatiques. Voilà les trois types de paroles qui permettent à Céline Minard de faire ce truc très difficile, qui est de construire un monologue. La malédiction, la plaidoirie, l'invocation. C'est les trois formes que prend ce verbe furieux, ce monologue furieux, à travers les 60 pages. Donc ça s'ouvre sur de la malédiction, qui est annoncée dès la quatrième de couverture. Ce livre, portrait en diptyque de la grande prostituée qui lança, dit-on, une terrible malédiction sur Rome, nous donne à entendre sa voix avant de retracer son histoire. Donc le monologue, puis la biographie. Malédiction annoncée donc. En substance, à mort mes ennemis et mes anciens amis, et même à mort Rome, et si possible dans d'atroces souffrances. Si je devais résumer Olympia, ce qui est bête, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui en termes de résumé. Si je devais le résumer, ce serait ça, pour cette partie de malédiction. Il y a une violence toute rablaisienne dans la langue qui est mobilisée, puisque Rabelais, c'est pas juste rigolo, c'est violent. C'est violent notamment dans le sort qui est réservé aux corps. Dans Rabelais, les corps sont très malmenés. Et là, c'est une succession de tortures, en fait. Il y a une scène notamment où Gargantua mange des pèlerins, par exemple. Des types qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle et ils se cachent dans la salade de Gargantua et Gargantua prépare le truc et du coup il les mange. C'est une scène de cannibalisme en fait. Bon, c'est très drôle et c'est très violent aussi. Dans le lexique, donc, on retrouve des choses rablaisiennes, hein, les poussettes, un certain langage du corps aussi. C'est comique, c'est archaïsant, c'est violent. Mais la fantaisie, elle s'introduit tout de suite dans cette partie de malédiction. Le roman est présent immédiatement et pas juste l'histoire, pas juste la tentative de reconstitution d'une langue perdue, à travers l'usage de Rabelais par exemple, puisque Olympia ne recourt pas au diable pour maudire ses ennemis, elle recourt à Mitra. Mon envoûtement à Mitra. Elle répète ça plusieurs fois. Or Mitra, c'est un dieu païen, en fait un dieu indien au départ, mais qui arrive à Rome voilà, autour du 1er siècle. Après Jésus-Christ, Son culte a disparu au IIIe siècle, donc autant vous dire que la vraie Olympia n'a jamais parlé de Mithra. Au XVIIe siècle, même une femme très impie ne convoque pas Mithra pour lancer une malédiction. Elle va convoquer le diable, elle va convoquer éventuellement des saints un peu douteux. Mais elle ne convoque pas Mithra. C'est la première référence mythologique du texte, c'est la plus récurrente aussi, mais il y en aura d'autres à la fin. Pia convoquera les naïades, par exemple, les divinités de l'océan grec, etc. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qu'intéresse Célimina avec cet anachronisme, puisque c'en est un, clairement, quoi. De même que dans l'autre sens, on aura d'anachronisme avec le bidet ou la pizza. Ben, ce qui l'intéresse, c'est que c'est un personnage païen. Elle convoque des références polythéistes pour dresser immédiatement la figure d'un personnage païen. Alors, il se trouve que les contemporains d'Olympia avaient mis, d'une certaine façon, ces liminaires sur la piste, puisque quand ils entendaient Olympia, ils entendaient Impia. Ils n'entendaient pas impoli, ils entendaient impia, l'impie. Donc ces liminaires suivent cette pente, en fait, et elles développent le personnage de l'impie en en faisant une polythéiste, en en faisant une païenne. C'est-à-dire que c'est une déviante par rapport à la norme catholique qu'elle a en même temps défendue, puisqu'elle conseillait le pape. Mais au-delà de ce truc provoque de dire que la conseillère du pape était une polythéiste, une païenne, ça plante surtout la figure d'un personnage qui est capable de mobiliser d'autres forces que celle des purs catholiques. C'est donc la manière de préparer le personnage de la sorcière. Dire « Olympia convoque Mithra », c'est dire « Attention, on a déjà affaire à une sorcière ». Et la sorcellerie, elle a partie liée avec la littérature dans les pouvoirs du langage dans lesquels on croit. Chez un sorcier, la malédiction, c'est pas une simple menace. C'est une action concrète, puissante. « Je te maudis », c'est un acte. Pensez au bouquin de Jeanne Favret-Saada qu'elle a sorti au début des années 80 qui s'appelle « Les mots, la mort, les sorts » et qui est un bouquin sur la sorcellerie dans le bocage normand aujourd'hui. La sorcellerie telle qu'elle se pratique aujourd'hui en Normandie. « Les mots, la mort, les sorts » Jeanne Favret-Saada. Saada, S-A-D-A. Favret, c'est F-A-V-R-E-T. Ça veut dire que les mots provoquent la mort à travers les sorts. Donc il y a une efficace du langage dans la sorcellerie qui intéresse profondément ces liminaires. Le sorcier, c'est un peu le modèle de l'écrivain, dans le pouvoir qui est confié au langage. Artaud s'en souvenait entre 1937 et 1939, quand il a jeté des sorts. Antonin Artaud, c'était quelqu'un de très particulier, et il y a toute une période où il a jeté des sorts. Il a notamment jeté des sorts à Adolf Hitler, en 1939, oui, ce qui n'empêchait donc pas la lucidité. Parce que croyait en une efficacité de la parole. C'est surtout les poètes quoi, qui basculent vers cette chose-là, qui sont encore les héritiers des prêtres, des sorciers. Ils croient que, voilà, littéralement, dire, c'est faire. Et les païens y croient. Bon, alors évidemment, ces liminaires, elles ne jettent pas de sorts. Elles créent un personnage qui jette des sorts. C'est pas la même manière de croire à l'efficacité de la parole. Elle n'est pas déliante, ces liminaires. Mais n'empêche que son texte produit des effets. Évidemment, Rome n'a pas été noyée, mais, vous voyez, on sent l'effet du texte parmi nous aujourd'hui. Il est là, cet effet. La stupéfaction, la sympathie pour certains parmi nous, l'humour pour d'autres, mais quand même, qui résisterait à cette formule de la page 55? L'humour, c'est un effet incroyable. Faire rire les gens avec des petits machins noirs sur une page, c'est la fin du premier paragraphe de la page 55. « Et ta chaise à porteur à trous, ta chaise à chier la sainteté, j'en fais des bûches. » Enfin, trouver une chute pareille, c'est génial, quoi. Il faut, je sais pas, peut-être qu'elle était ivre à ce moment-là, ou parce que c'est des trouvailles, quoi. Faire des bûches de la chaise du pape. C'est... Vous imaginez, là, la chaise sur laquelle est innocent, là, transformée en petit foyer, c'est... Enfin, bon, il faut les trouver, ces formules-là. Ça tombe pas sous le sabot d'un cheval. On verra peut-être qu'il y a d'autres effets encore concrets. Voilà pour la malédiction. À partir de la page 23, on passe à la plaidoirie. Bon, on n'abandonne pas la malédiction, hein, on va voir. Mais c'est l'autre forme de langage efficace que prend le monologue. C'est assez explicite, hein. Page 23, il y a un paragraphe qui commence par « De quoi m'accuse-t-on ? » De quoi m'accuse-t-on ? Olympia continue de maudire ses ennemis, mais en montrant qu'ils ont tort de lui donner tort. Donc elle se défend. Ça aussi, c'est de la langue efficace. La langue de l'avocat, la parole de l'avocat, c'est une parole qui sauve ou qui condamne par son simple pouvoir de conviction. C'est une parole suivie d'effet. C'est une parole efficace. Alors en quoi elle va consister cette argumentation d'Olympia? Elle ne consiste pas à dire qu'elle est innocente, c'est l'autre qui est innocent. Innocent 10, elle consiste à dire que tout pouvoir est coupable, illégitime, violent. Bon, là, vous voyez, c'est la dimension de philosophie politique dont je voudrais vous parler dans un deuxième temps. Donc, j'en reste là-dessus pour la plaidoirie, cette deuxième forme de langage efficace que prend le monologue. Donc, glisse ensemble jusqu'à la page 56, la malédiction et la plaidoirie. Page 56, décrochage, très net, coup de force. J'appelle Marana Mariana, l'Aqua Iulia, l'Aqua Felice, la Claudia, la Paola, l'Aqua Vergine, la Pia, l'Agneau Vetus et Nous, je vous appelle, mes gouttes, mes ruisseaux, mes eaux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Bah d'abord, graphiquement, il y a un truc très net. On sort du paragraphe. On bascule dans le verset. Ça, je m'en étais pas rendu compte à la première lecture. C'est ça aussi. C'est relire aussi. Moi, j'avais été très frappé dès le départ par le texte. J'ai eu envie de le relire et de vous le proposer. Mais quand tu relis, moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Je lis le soir, le matin, je m'endors sur mes livres. Voilà. Mais quand tu relis, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, il y a un changement de régime du texte. On sort du paragraphe. On bascule dans le verset. C'est-à-dire des phrases qui peuvent s'étaler sur plusieurs paragraphes. Comme dans la Bible. Comme chez Claudel. Comme dans le Coran. Comme dans les grands textes. On va voir que la Bible, elle est là-dessous, la fin du texte. Passage au verset, donc, au niveau formel. Il se passe quelque chose. Ah, Céline Minard, dans les dernières pages, bon, c'est un feu d'artifice, hein, ce texte, mais il y a un bouquet final. Clairement, il y a un bouquet final. Et elle nous le marque. Vous savez, comme les artificiers, quoi. Ils font leur truc, puis à un moment, il y a une petite pause, on se dit, ah tiens, c'est fini. Et puis en fait, non. Bah, et là, ils envoient tout. Quelle forme ça prend chez Céline Minard? Le verset. De quoi est-ce qu'il est question? Eh ben, Olympia en appelle à tous les cours d'eau qui entoure et qui traverse Rome pour qu'il noie la ville. Elle en appelle littéralement, hein. J'en appelle, je vous appelle, etc., etc. Donc la dernière forme de la parole efficace, c'est quoi? C'est l'invocation. Littéralement, invocare, vocare, appeler. Appeler avec sa voix, invocare. Et là, il n'y a plus de doute, Olympia est une sorcière. La sorcière, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a en spécificité? Elle a un discours qui commande aux éléments. Regardez Harry Potter, comment ils disent déjà « Voilà, tous, weignez, je ne sais plus quoi, avec la baguette, et le truc s'envole. Bon. » Olympia, elle n'a pas de baguette, elle a le langage. La commande qui est faite aux éléments, elle passe par deux choses. Elle passe par les noms. L'invocation sorcière, quand elle nomme, en même temps, elle donne un ordre à la chose nommée. « J'appelle l'Aqua Iulia. » Et en l'appelant, elle lui dit « Agis. » Donc nommer pour les sorciers, c'est autre chose que désigner, c'est donner un ordre. J'appelle, c'est ça que ça veut dire. Donc les noms et les verbes. Page 62. Qu'il pleuve. Ou Olympia fait rien d'autre que se hisser au niveau de Dieu, excusez du peu. Qu'il pleuve. On entend à la fois la genèse de que la lumière soit et la genèse du déluge. Fiat lux. C'est Olympia, c'est plutôt fiat aqua. Que l'eau soit, qu'il pleuve, que Rome disparaisse. Sous mes eaux. Alors le personnage historique d'Olympia avait fait déjà ce truc incroyable de noyer la place où elle vivait, la Plaza Navona. Elle organisait des fêtes avec des bateaux. C'était très à la mode à l'époque de montrer sa puissance en créant un lac sur une place. Ça, c'est le personnage historique. On fait ça. Et évidemment, Céline Minard s'en empare. Donc c'est à la fois le dieu de la Genèse, que la lumière soit, le déluge, et puis c'est le dieu de l'Apocalypse, bien sûr. Après moi, le déluge, que tout disparaisse. Puisque je disparais, que tout disparaisse. Et ça, si vous n'avez pas déjà rencontré des gens dans votre vie qui se comportent comme ça, je serais très étonné. Parce que c'est une pulsion très profonde. Très profonde. C'est le complexe du scorpion. « Ah oui, je vais mourir ? Eh bien, attendez voir, je serai pas le seul à mourir. » La personne la plus impressionnante que j'ai rencontrée qui a fait ça, c'était le directeur de l'Orchestre National de Jazz. C'est une direction qui est confiée à des gens pour entre 1 et 3 ans, normalement, et il était censé être le dernier. Donc, finir en majesté, quoi. Et il a appris qu'il aurait un successeur. Mais il a cherché à dégommer l'institution. Le seul orchestre de jazz en France dont les répétitions soient subventionnées. Le seul orchestre qui considère un tout professionnel les musiciens de jazz. Ce type a voulu dégommer cet outil, parce qu'il n'était pas le dernier. Donc cette pulsion, que celle d'Olympia, d'un personnage de fiction, je la connais. Et puis c'est pas la dernière fois que je l'ai rencontré. Qu'il pleuve! Donc oui, c'est ça, hein. À côté d'Achille et d'Ajax, il y a un autre grand colérique au fondement de notre littérature, c'est Dieu. Dieu dans ses mauvais jours, les jours de colère. À partir de là, quand elle passe à des verbes, qu'il pleuve, etc., Céline Minard construit une nouvelle litanie, hein, qui n'est plus une litanie de noms, qui n'est plus une liste répétitive, obsessionnelle, une litanie de noms, mais une litanie de verbes. Et ces verbes sont au subjonctif d'ordre. C'est un usage, bon, voilà, techniquement, hein, au niveau grammatical, c'est du subjonctif. Mais un subjonctif très particulier, un subjonctif qui n'a pas besoin d'être annoncé par un premier verbe. C'est pas « je voudrais qu'il pleuve ». C'est « qu'il pleuve ». C'est cette variété-là du subjonctif qui est équivalente à l'impératif. Sauf que le verbe « pleuvoir » peut difficilement se conjuguer à l'impératif. Et dans « subjonctif », on se met à entendre l'étymologie du mot « subjonctif ». « Subjungere », c'est « mettre sous son joug ».« Jungere », c'est « mettre sous son joug des bêtes de somme ». Subjonctif. Et c'est ça qu'elle fait, Olympia. Elle dit « que les eaux soient sous mon joug ». Elle dit au subjonctif. Donc je passe, mais j'aurais voulu vous lire un extrait de Hall, grand, grand poème d'Allen Ginsberg, qui, lui, est construit sur une litanie de « qui, who, 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 who ». Voilà, c'est très proche dans la rythmique, sauf que Ginsberg n'écrit pas des commandements. C'est pas des verbes d'action. Après, c'est « que ». Que Céline Minard, elle met des verbes d'action, elle met des verbes de commandement. Mais il y a une analogie dans la construction. Je ne sais pas si Céline Minard y a pensé ou pas, mais il y a une proximité. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, pour finir sur cette première partie de Monologue furieux, cet intérêt de Céline Minard pour une telle forme donnée à son texte, qui est, je le reconnais, une forme singulière, une forme étonnante. Hein. Pourquoi avoir choisi un monologue furieux? Parce que Céline Minard, elle croit que le langage est performatif. C'est quelqu'un qui a cette conviction que le langage, c'est performatif. Ça, c'est un mot technique des linguistes qui a permis de montrer, à partir des années 60, c'est un linguiste anglais qui s'appelle Austin, qui a travaillé là-dessus, qui a montré qu'avec le langage, on fait des choses. On ne fait pas juste que émettre des sons, mais qu'on fait des choses. Son bouquin le plus célèbre, ça s'appelait « How to do things with words ». C'était une blague à partir des manuels, comment se faire des amis, comment devenir influent, etc. Lui, il a écrit « Comment faire des choses avec les mots ». Et il s'intéressait à des expressions comme celles qu'on entend dans les mairies, quand le maire dit « Je vous marie ». L'énoncé ne fait pas que déclarer quelque chose, ne fait pas que constater quelque chose, dont on peut dire qu'il serait vrai ou faux. Il agit, c'est-à-dire qu'avant que le maire dise ça, ben, les mariés ne sont pas mariés, et une fois qu'il l'a dit, ils sont mariés. Et s'il n'y a pas eu cette parole, il n'y a pas de mariage. Céline Minard, c'est une héritière de cette vision-là du langage. Sauf que elle, c'est plus dans l'ordre de la linguistique, de la recherche universitaire, c'est dans l'ordre de la fiction. C'est quelqu'un qui croit que le langage a un pouvoir. C'est pour ça qu'elle s'intéresse tant aux sorcières. Et même si le langage d'Olympia s'inscrit dans la fiction, il produit des effets saisissants, des effets de lecture. Parce que la fiction elle-même, c'est agissant. La fiction, c'est pas un monde éthéré dans lequel on se réfugierait pour le plaisir. C'est ça aussi. Hein. Voilà, j'avais cette excuse formidable de pouvoir me replonger dans Harry Potter pour préparer tout ça. Et en fait, je me suis régalé dans cet univers qui n'existe pas, évidemment. Mais ça renvoie toujours d'une façon ou d'une autre, de façon très profonde, à la réalité la plus réelle. Bon, je voulais vous dire aussi qu'elle, Céline Minard, elle ne parle pas de performativité, mais qu'elle parle de jactance dans le roman d'après, après Olympia. Elle écrit un autre roman avec un personnage féminin génial, qui est à mon sens moins bon qu'Olympia et que d'autres romans, mais il y a cette invention super dedans, où elle imagine son roman, son personnage, qui se lance des défis verbaux. Et des défis qui sont des moments où elle joue véritablement sa vie. Par exemple, elle fait des hold-up. C'est une espèce de Calamity Jane, comme c'est Minard les aime bien. Et ces moments-là, où elle prend un risque vital, elle appelle ça des jactances. Des jactances. Et c'est un mot vachement intéressant par rapport à performativité. Je trouve que c'est vraiment un beau travail d'écrivain, parce que performativité, c'est pas un mot d'écrivain, c'est vraiment un mot de théoricien, de technicien. Et jactance, c'est à la fois pour jacter, bien sûr, parler, mais c'est aussi le alea jacta est. C'est le fait de jouer son destin avec du langage. Et là, on n'est pas dans la fiction éthérée. Elle joue sa vie avec la jactance. L'héroïne de son nom Louise, elle risque de mourir si elle n'est pas crue. D'ailleurs, mourir si on n'est pas cru, c'est l'expérience réelle ou métaphorique de l'homme politique. Mourir si on n'est pas cru. Soit on est cru, soit on meurt. Bérégovoy, il en est mort réellement. Il s'est tué à cause de ça. Le monologue d'Olympia, c'est peut-être un monologue d'agonie politique. Parce que celui qui la croyait, il vient de mourir, c'est Innocent X. Lui, il est mort. Terminé. Et du coup, elle, elle est en état de mort politique. Mais c'est du même coup une leçon de politique, juste avant la mort. Et donc, c'est de ça que je voudrais vous parler, juste avant les élections. Comment ça se passe, la prise de pouvoir, d'après Olympia ? Justement, le pouvoir, ça se prend. Je renvoie Machiavel à ses classes, pour revenir à Machiavel. Donc attention, la leçon de politique commence, nous dit Céline Minard. Olympia était probablement illettrée, très peu lettrée. Voilà, c'est ce qu'elle dit dans la biographie. Et le personnage le dit au début. Je ne sais pas lire, mais je renvoie Machiavel à ses classes. Pourtant, elle a la double intuition fondamentale pour régner, pour dominer, et pour faire autre chose du coup que régner et dominer aussi, pour pas être prisonnière du pouvoir, parce que c'est une femme libre. La première intuition, c'est le pouvoir est hors la loi. Il n'y a pas de pouvoir légitime. Page 23, c'est au début. Au début de son plaidoyer. De quoi m'accuse-t-on ? De régner illégitimement, comme s'il existait des règnes légitimes ? D'après Olympia, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de domination qui se justifie. Ce qui s'oppose à la philosophie du contrat, chez Rousseau, par exemple. Voilà, Rousseau nous dit, au fondement de la société, il y a un contrat. Il y a des gens qui passent un contrat pour être ensemble, et parmi cette manière d'être ensemble, il y en a un moment qui prend le pouvoir par contrat. Donc Olympia, et peut-être Céline Minard derrière, je ne sais pas, je pense que Céline Minard a une conception politique plus complexe qu'Olympia, mais Olympia, elle nous dit, voilà, il n'y a pas de pouvoir légitime. Et pourquoi est-ce que moi j'ai accepté de régner alors ? Pas légitimement. Pourquoi j'ai accepté de régner ? Parce qu'il existe une servitude volontaire. Le mot n'est pas utilisé dans Pia, ça c'est l'expression d'Étienne Laboétie, qui a écrit ce fabuleux traité à 19 ans à peine, qui est sorti plus de 30 ans après sa mort, de la servitude volontaire. De la servitude volontaire, c'est un texte qui dit qu'il n'y a pas de pouvoir légitime, mais chez la plupart d'entre nous, il y a le désir d'être gouverné, il y a le désir d'être dominé. Et c'est ça qui fonde le pouvoir. Donc cette servitude volontaire, elle ressurgit de façon presque explicite par deux fois dans Olympia. Page 23, à la suite de ce qu'on vient de lire. De régner illégitimement comme s'il existait des règnes légitimes, d'affamer le peuple comme si le peuple, toujours, en tout lieu, n'avait pas exactement ce qu'il mérite, ce qu'il veut, servitude volontaire. Ça, c'est la première occurrence. Et plus loin, page 35, une expression presque équivalente, en haut de la page 35, le besoin du maître était dans tous les corps que j'ai rencontrés. Le besoin du maître. Donc là, c'est même pas volontaire comme servitude, c'est instinctif. Le pouvoir, d'après Olympia, ne se contractualise pas, il ne se gagne même pas. Comme il est illégitime et en même temps désiré, il se capture en situation d'illégitimité. Le pouvoir, ça se capture. Elle dit, dès la page 17, et elle va répéter ça comme litanie, je prends. Je prends. Je prends, je garde, je conserve, je prends. J'avais parlé de Mille Plateaux il y a 2 ans, Deleuze et Guattari, je vous l'ai ramené là. Ça, c'est ma Bible, quoi. Ça m'a sauvé la vie, vraiment. Il y a un des plateaux, puisqu'il ne s'agit pas de chapitre, il s'agit de plateau, qui s'appelle Appareil de capture. Appareil de capture, qui nous explique les fondements historiques de l'invention de l'État. Comment est-ce que l'État a surgi ? Il a surgi par capture du pouvoir. La capture, nous dit Deleuze et Guattari, elle se manifeste par exemple par l'impôt ou par la conscription. Voilà, le fait de capter soit de l'argent, soit des vies, pour les envoyer faire la guerre. Ça, c'est des formes de capture. Dans la bouche d'Olympia, je prends, je garde, je conserve, je prends. Après la capture, une fois qu'on a capturé ce pouvoir illégitime, Olympia nous dit... Le pouvoir ne vise ni la justice, ni la domination. Le pouvoir ne cherche pas à être bon ni mauvais. Il cherche juste une seule et unique chose, se conserver, se prolonger. Et c'est ça le sens de départ, très percutant, du mot « état ». Un état, c'est quelque chose qui est, qui se prolonge dans l'être. Qui cherche qu'une chose, c'est se prolonger. Bon, ça renvoie à autre chose qu'à la question de l'État. Ça renvoie à... Là, pour le coup, c'est plus seulement de la philosophie politique, c'est de la philosophie tout court. C'est un rapport à l'être. Deleuze et Guattari expliquent que la fondation de l'État, c'est un rapport entre l'être et le devenir. Que l'État, c'est ce qui cherche à contenir le devenir. De même que les berges contiennent le fleuve. Le devenir est toujours explosif, instable, inquiétant, et l'État vient conjurer tout ça. Si vous voulez, le 14 juillet... C'est le ressurgissement du devenir. C'est le moment où le devenir déboule et déboulonne l'État, en l'occurrence une prison. Et c'est ça qui est génial, là aussi je prolonge Deleuze et Guattari, qui hante l'imaginaire de Céline Minard, c'est pour ça que je me sens tellement proche d'elle, tellement petit frère, quoi. Deleuze et Guattari disent, voilà, ils reprennent un texte de Michel Serres, génialissime, qui s'appelle « La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce ». Donc le texte de Lucrèce dont il est question, c'est « De natura rerum », de la nature des choses. C'est un des fondements de culture à la fois poétique et scientifique. Et Michel Serres lit ce bouquin, et après Deleuze et Guattari lisent Michel Serres, et tout ce monde-là dit, voilà, dans Lucrèce, il y a deux conceptions de l'hydraulique. Il y a deux conceptions de la physique des fluides. Il y a une conception en termes de canaux et une conception en termes de delta. Bon, ils adorent les dichotomies comme ça de Deleuze et Guattari, donc quand ils lisent Michel Serres, ils sont tout contents, quoi. Les canaux et les deltas, c'est pas du tout la même chose. Le canal transforme le fluide en être, c'est stable. Il y a un flot qui devient un canal. Le delta, c'est une organisation aussi du fluide. Bien sûr, c'est pas n'importe quoi un delta. Si vous regardez un delta vu de haut dans les jolies photos de Arthus Bertrand qui gomme la pollution, tout ça, le delta c'est très organisé. C'est une espèce de chevelure. Mais il y a une communication entre les membres aquatiques qui n'est pas du tout celle des canaux, évidemment, qui n'est pas une communication euclidienne, géométrique. Et qu'est-ce qu'elle fait, Olympia ? Au départ, là, quand elle fait ses fêtes, et ça c'est le personnage historique, elle crée un canal. Elle fait une espèce de mer à la place de sa place, mais c'est une mer très canalisée. On organise des fêtes dessus, il y a des bateaux, les enfants peuvent venir, quoi. Mais là, Olympia, de la fin, là, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, sur les canaux, elle balance un delta. Elle dit « je détruis ». C'est « détruire », dit-elle, Olympia. C'est une référence à Duras aussi. « Détruire », dit-elle. C'est l'acte traditionnellement masculin, guerrier, de détruire, qui est attribué à une femme. « Détruire », dit-elle. Bon, ben, c'est ça qu'elle dit, Olympia. C'est que mes anciens canaux se transforment en delta. Ou plutôt que le delta ressurgisse. Que l'ancien delta que j'avais canalisé avec toutes mes fontaines, avec toutes mes vieilles canalisations, il y a toute une rêverie de la canalisation dans Olympia, que mon ancienne canalisation soit débordée par le delta primitif. Sa rêverie, c'est ça, en fait. Donc, c'est remettre du devenir au milieu de l'état. Faire ressurgir le devenir au milieu de l'État. Sachant qu'à l'époque, l'État, c'est une ville. La seule existence concrète de l'État à cette époque, c'est la ville. Ce qu'on appelle les villes-États. C'est la grande invention de l'Italie de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est, politiquement, c'est le fait de construire des villes-États. Il n'y a pas encore d'État-nation, de pays-nation, de pays-État, comme on les connaît nous aujourd'hui. La forme que prend l'État à ce moment-là, c'est la ville. Donc quand Olympia dit « je veux que ma ville soit submergée », c'est l'État qu'elle submerge. C'est un delta sur l'État. Il y a toute une rêverie politique et urbaine dans Olympia, puisque la forme que prend la politique à cette époque, c'est la ville. Les deux choses sont indissociables. Et, comme par hasard, le saint dont se réclame Olympia, en passant comme ça, page 13, après l'envoûtement à Mitra, c'est « Mon saint Philippe le Noir, mon saint Philippe le Noir me soutient ». Philippe le Noir, j'ai mouliné du coup, c'est Filippo Neri. Philippe Neri. Saint Philippe Neri. Alors qu'est un saint, moi, Philippe le Noir, je pensais que c'était une espèce de sorcier, lui aussi. En fait, c'était apparemment, c'est le seul saint qui fait de l'humour. Dans la géographie officielle de l'Église, c'est le seul, c'est marrant, hein, c'est le seul qui fait des blagues, en fait. Alors c'est des blagues pas terribles, vous verrez, bon, c'est quand même une tentative de blague, quoi. Et une femme un jour qui lui dit « Est-ce que je dois mettre une robe de bure pour ma crucifixion et tout ça pour souffrir ?» Et lui dit « Oui, mais toujours au-dessus des vêtements. » C'est une blague pas mal, quoi. Bon, il essaye de faire des blagues. Bon, qu'est-ce qui m'intéresse surtout avec Philippe Lenoir, Philippe Néry, et qui intéresse Philippe Minard, c'est que c'est le patron de Rome. C'est le patron de Rome. Donc Olympia, quand elle dit « Mon saint Philippe Lenoir me soutient », elle dit « Le fondement de Rome est d'accord avec moi. » Celui qui protège Rome est d'accord avec moi. Et c'est Minard, qu'est-ce qu'elle fait au frontispice de son bouquin, Olympia, blablabla, avant la citation de Schwab, c'est la dédicace à Rome. C'est dédié à Rome. Ça, c'est vraiment un très beau geste. C'est vraiment un très beau geste. Du coup, elle peut tout se permettre, puisqu'elle l'a dédié à Rome, et même, page 61, de décider que, sous les eaux, il y aura notamment la Villa Médicis, où elle est en train d'écrire. Alors elle est polie, hein, quand même, puis elle rigole un peu. Elle dit « Revivifiante ronfle et déborde Villa Borghese », mais Villa Medici aussi, quoi, qu'elle la noie. Donc Olympia, c'est Liminard, quoi. Hein. Les canaux et le delta, puis Olympia, c'est Limina, c'est sûr. Où est-ce que ça se manifeste le plus? Je finirai là-dessus. Sur cette question de l'auctoritas, sur laquelle Olympia insiste si bizarrement, quand on n'a pas encore décrypté la chose. Du coup, j'ai plongé dans le dictionnaire historique de la langue française, qui est un délice toujours reconduit. Alors là, vraiment, si vous voulez simplement du délice avec des mots, il y a toujours le dictionnaire historique de la langue française. À auteur, vous trouvez auctor, c'est-à-dire, c'est vraiment génial, fondateur, instigateur, conseiller, garant, vendeur, possesseur, et aussi auteur responsable d'une œuvre. Donc en latin, auctor, ça veut dire des tas de trucs. Vendeur, c'est intéressant aussi, parce qu'elle dit qu'elle vend des choses. C'est aussi une espèce de banquière, Olympia. Bon, lecture à clé, donc peut-être, hein, peut-être qu'il faut lire Olympia avec une lecture à clé, c'est-à-dire attribuer des personnages réels derrière. Du coup, il y a cette histoire de nain bouffon, évidemment, qui est intéressante. C'est qui ce successeur d'Innocent X, vraiment, en fait, en 2007? Mais surtout, ce qui m'intéresse dans l'expression d'auteur, c'est que quand on dit c'est l'auteur du crime, ou c'est l'auteur de ce tableau, etc., ça veut dire c'est la cause, synonyme de la cause. C'est la cause de, c'est la cause du crime. La position d'auteur, c'est la position où vous êtes la cause de quelque chose. Vous êtes la cause d'un texte, même, éventuellement. Ça, c'est un des attributs de Dieu, en fait. Dieu, c'est la cause de lui-même. C'est une des formules qu'utilisaient les médiévistes pour désigner Dieu. Ils disaient « causa sui ». Dieu, c'est quoi? C'est la cause de soi. Il n'y a rien qu'à causer Dieu à part Dieu. Et l'auteur se place dans cette position. C'est la cause d'une chose. Mais c'est là-dessus que Céline Minard termine avec son Olympia. Elle lui donne le suprême attribut de l'auctor, en disant, pour finir, moi seul en être cause. Moi seul en être cause. Voilà, c'est l'attribution de l'auctor. Moi seul en être cause.